Bon matin. Quel plaisir de commencer ça comme ça. Merci beaucoup au Ben de nous diriger. C'est vraiment un privilège de pouvoir vivre ça ensemble, le partager ensemble. Mon nom c'est Timothée, je suis un des pasteurs ici. Puis c'est avec plaisir que je vais vous souhaiter la bienvenue, que vous soyez nouveau, que vous soyez pas nouveau. Je sais pas c'est quoi le titre quand t'es pas nouveau. Ancien peut-être. Ça c'est pas la même chose. Sois le bienvenu, la bienvenue finalement, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu es. On est tous et chacun, on a tous et chacun une place ici à Axe. On le répète souvent, mais on veut être un endroit qui est accueillant pour tout le monde, pour toutes sortes de cheminements, d'arrière-plan, de croyances même. On n'a pas besoin de qualifier pour venir ici, à part de vouloir participer puis vivre cette expérience ensemble, cheminer chacun les uns avec les autres. Alors ça, c'est simplement ça qu'on veut mettre en place, puis qu'ensemble on puisse apprendre, ensemble on puisse être mis au défi, grandir, découvrir. L'expérience humaine n'a jamais été faite pour être vécue seule. Alors ici, on a au moins un petit avant-goût de comment ça peut être. C'est pas parfait. C'est jamais parfait quand on est ensemble, parce que chacun d'entre nous, on contribue à l'imperfection de l'ensemble, mais le but, c'est pas que ce soit parfait, le but, c'est qu'on puisse cheminer, apprendre, puis s'approcher de quelqu'un qui, lui, est parfait, qui est Dieu. Alors, c'est ça l'objectif, entre autres, de ce qu'on fait ici ce matin. Comme Marc l'a annoncé, on commence une nouvelle série après 4 dimanches de parler de l'adoration, puis de la louange. Maintenant, on veut faire une courte série qui va être de 3 dimanches sur le thème exponentiel. Fait que si jamais vous êtes comme moi et que les mathématiques provoquent chez vous moins d'excitation et plus de boutons, vous vous rappelez peut-être pas la définition mathématique d'exponentiel, mais c'est quand on parle d'une croissance qui est pas statique, qui est pas régulière, mais une croissance qui est démultipliée, qui augmente continuellement finalement. Ça fait des courbes comme ça. Puis je sais qu'il y a une formule mathématique qui exprime ça, mais je m'en fiche complètement. Fait que, exponentiel vient challenger une conception qui est très 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 présente chez n'importe qui et auquel on est continuellement confronté, c'est que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vous avez déjà entendu cette expression-là ? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je fais ce que je peux. Je fais de mon mieux. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, avec ce que je suis. On est conscient, au moins jusqu'à un certain point, de nos limites, de nos défauts, des domaines dans lesquels on n'est pas les meilleurs. Il y a des gens qui arrivent mieux que nous. On a des limites qui caractérise jusqu'à un certain point ce qu'on pense pouvoir accomplir. Et puis, notre vie vient continuellement confirmer cette pensée-là, à savoir qu'on veut faire quelque chose, puis parfois on n'y arrive pas. Ou peut-être on a une ambition, puis là on réalise qu'on a peut-être été trop ambitieux. On avait les yeux plus gros que le ventre, comme on dit, puis on a voulu trop selon ce que nous on était capable de livrer. Puis quand on est confronté à un échec ou à un défi, à un obstacle qu'on n'arrive pas à surmonter, oui, on peut blâmer quelque chose d'autre, des circonstances externes, puis trouver un autre coupable, mais éventuellement on se dit « j'étais juste pas capable, j'ai juste pas été capable, j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais pas ce que ça prenait pour réussir ce que je voulais accomplir ». Et cette idée n'est pas fausse. Qu'on peut seulement accomplir un certain nombre de choses ou une certaine quantité ou des certaines choses qui sont hors de notre portée, c'est vrai. Mais il y a une autre composante qu'on oublie facilement ou qu'on met de côté facilement, c'est que le monde tel qu'il est vraiment n'est pas tout ce que nous on peut voir, c'est tout ce que nous on peut discerner puis comprendre. Puis quand on rencontre Dieu ou quand on entend qui Dieu est, ce qu'il fait, sa manière de fonctionner, on réalise que sa manière de fonctionner n'est pas la même que la nôtre. Et que quand lui est dans le portrait, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le portrait, mais quand on réalise qu'il est dans le portrait, qu'il fait partie du système, du monde, de la réalité telle qu'elle est vraiment, alors cette pensée qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a est complètement renversée. Et c'est pour ça que, avec ce thème exponentiel, on veut explorer qu'est-ce que ça peut vouloir dire de vivre notre vie non plus seulement en fonction de « je fais ce que je peux avec ce que j'ai », mais en fonction de qu'est-ce que ça peut être quand je réalise puis quand j'embarque dans la réalité que Dieu existe. Et c'est pas une série self-help, pop psycho, là, où on veut juste comme se donner tout le monde une bonne tape dans le dos, puis dire, ouais, t'es capable, embrasse la force, peu importe, là, quelle formulation on peut trouver, c'est pas ça du tout. C'est simplement pour nous ramener à la réalité que Dieu est là, et que ça change tout. Ça change notre expérience, ça change notre manière de vivre, ça change aussi les choses qu'on va vouloir faire ou pas faire en fonction de la réalité de Dieu. Si on est complètement limité par nous-mêmes, par nos capacités, nos talents, nos forces et nos faiblesses, alors on va s'engager dans un certain nombre de choses et on va délaisser un certain nombre de choses en fonction de ça. Mais si Dieu est présent, comment est-ce que ça peut changer ma manière de vivre ma vie? Comment est-ce que ça peut changer les choses que je vais vouloir faire, les choses que je vais délaisser, les choses que je vais entreprendre, non plus en fonction de « je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai », mais en fonction de « Dieu est là, lui aussi ». Ce n'est pas juste moi, la quantité de ressources qu'on peut utiliser pour atteindre un objectif. Alors c'est ça un peu l'angle de cette série exponentielle. Puis j'espère que ça va être l'occasion de nous mettre au défi aussi, de sortir des sentiers battus, de sortir des limites que nous on se donne quand on fonctionne seulement avec nos propres ressources, avec notre propre capacité qui, quand on est honnête, est limitée, sont limitées. Quand on est jeune, quand on est petit, on rêve de toutes sortes de choses. Tous les garçons veulent devenir astronautes, médecins, aventuriers, puis les filles, je sais pas parce que moi je suis pas une fille, mais on rêve de très grandes choses, puis la vie nous apprend petit à petit que ça va pas être possible finalement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vous êtes parti jeune avec des rêves incroyables, extraordinaires. On voulait tous être Indiana Jones, n'est-ce pas? Les gars, les filles, je m'excuse. puis là, on vit notre vie, puis on vit des expériences, puis on réalise, hey, ça va pas être possible, ça va pas marcher, j'ai juste pas ce qu'il faut. J'essaye certaines choses, puis j'échoue. J'avais des projets, puis j'y arrive pas. Puis l'autre chose qui arrive, c'est que cette même démarche-là est appliquée à notre vie spirituel, dépendamment depuis combien de temps vous vous êtes embarqué dans un voyage spirituel, dans une compréhension de la vie dans laquelle la réalité spirituelle fait aussi partie de la vie, probablement que vous avez frappé ce mur aussi. Vous vous êtes dit, j'avais cette ambition, j'avais ce désir, j'avais un projet, j'avais un rêve de fonctionner d'une certaine manière, d'agir d'une certaine manière, d'être une certaine personne pour les gens autour de moi. Je voulais être quelqu'un d'encourageant, je voulais être quelqu'un qui relève, je voulais être quelqu'un de disponible, de patient, de doux, de humble, etc. Puis là, à un moment donné, en chemin, vous êtes rendu compte, j'y arriverai juste pas. C'est pas vrai que je vais réussir à être tout ça, à faire tout ça. Puis on recule et on se ramène à cette vision des choses où il faut être pragmatique. Je vais juste réussir à faire un certain nombre de choses. Je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Je vais faire ce que je peux avec qui je suis. Et ce qu'on veut faire, c'est simplement challenger cette vision des choses en ramenant qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand Dieu est là, et pas juste le Dieu que moi je m'imagine, mais le Dieu tel qu'il est et tel qu'il se révèle dans la Bible. Alors, on va commencer ce matin avec un court passage. J'ai pas mis le texte au complet, mais simplement dans le contexte, c'est que Jésus avait envoyé ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer des gens qui étaient prisonniers de toutes sortes de choses, des maladies, des emprises démoniaques. Peut-être vous vous dites, ok, ça c'est curieux, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. À l'époque, et dans certaines parties du monde encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la réalité quotidienne. Ici en Occident, c'est moins flagrant ou présent. Mais Jésus avait donné aux disciples ce mandat, mais aussi cette capacité d'aller puis de délivrer des gens qui étaient prisonniers de certaines choses. Et alors ils allaient puis ils guérissaient les gens qui étaient malades. Ils allaient puis ils délivraient ceux qui étaient sous une emprise spirituelle, prisonniers d'une manière spirituelle. Et puis là, à un moment donné, les disciples ils sont face à une situation et ils n'y arrivent pas. Il y a quelqu'un qui est pris, qui est prisonnier spirituellement, puis il est sous une emprise, puis les disciples n'arrivent pas à rien faire. Ils n'arrivent pas, ils sont face à cet échec, à ce mur, puis ils reviennent voir Jésus, puis ils disent « Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu nous avais donné ce mandat-là, puis aussi cette autorité, mais là, ça marche pas, ça n'a pas fonctionné. » Face à l'échec, ils reviennent voir Jésus pour trouver une solution. Et voilà comment Jésus leur répond. Il dit ceci, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Je ne vous cacherai pas que ça, c'est un passage qui challenge beaucoup. Quand Jésus dit aux disciples que rien n'est impossible, ça vient... C'est sûr qu'on lit ce passage, puis on se dit « Ah, c'est inspirant, c'est beau, Jésus dit ça, c'est vraiment incroyable. » Mais assez vite, on se dit « Est-ce que ça, c'est mon expérience de la vie ? Que comme je peux vouloir quelque chose, puis ça arrive, c'est impossible, mais ça peut arriver, l'impossible peut arriver. » La seule autre personne qui parle de même, c'est Oprah. Et puis... Pas d'autres commentaires. Et là, Jésus commence la réponse en disant « C'est à cause de votre incrédulité. » Autrement dit, c'est parce qu'il ne croit pas ou pas assez. Être incrédule, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ne pas croire quelque chose. Ne pas croire en quelque chose, en quelqu'un, en une vérité, en un fait. Et il dit « Si vous aviez de la foi ou de la confiance comme un grain de moutarde, grain de sénévé, c'est un grain de moutarde. » Ça, et l'image qui est donnée ici, c'est pas Jésus en train de dire à ses disciples, il faut faire pousser de la moutarde, là. Il est en train de dire à ses disciples, si vous aviez un tout petit peu de foi, un autre passage dans la Bible dit que le grain de moutarde était le grain le plus petit, la semence la plus petite. Fait que ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est si vous aviez de la foi en toute petite quantité, une toute petite mesure de foi, une toute petite mesure de confiance en moi, de confiance en Dieu, vous pourriez dire à la montagne, déplace-toi. Et elle se déplacerait. Et rien ne vous serait impossible. Autrement dit, les disciples sont face à un échec, à une situation où ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Et ce n'est pas juste ce qu'ils voulaient faire par ambition personnelle, c'est Jésus qui les a mandatés d'aller et de délivrer, et de guérir, et de libérer. Et face à l'échec, Jésus leur dit, le problème, c'est l'incrédulité. Vous ne croyez pas ce que je vous ai dit, vous ne croyez pas ce que je vous ai donné, vous ne croyez pas le mandat que vous avez reçu, vous avez cette incrédulité qui vous empêche d'avancer. Et puis, c'est comme si Jésus anticipait la réaction des disciples qui pourraient dire, ben c'est vrai, on n'a pas assez de foi, on n'a pas assez de foi, on n'a pas assez de foi. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? Si seulement j'avais plus de foi. Et la réponse de Jésus est complètement à l'opposé. Jésus dit, si vous aviez juste un tout petit peu de foi. Juste un tout petit peu, le plus petit grain que vous pouvez imaginer serait assez de foi pour déplacer une montagne et pour faire ce qui est impossible. La foi, c'est un concept qui est étrange, c'est un concept qui est curieux, entre autres parce que ce n'est pas un langage qu'on utilise beaucoup dans la vie de tous les jours. Vous n'êtes pas assis au feu, à la lumière, en voiture, en disant « j'ai la foi qu'à un moment donné, le feu va tourner vert ». Ou vous ne traversez pas l'intersection en voiture en disant « j'ai la foi que les autres vont s'arrêter au feu rouge ». Mais pourtant, c'est de ça qu'il s'agit quand même. Ce n'est pas le langage qu'on utilise, mais c'est ça qu'on est en train de mettre en pratique. On croit quelque chose assez pour vivre et agir en fonction de ce qu'on croit. Et la foi, dans le langage biblique, la foi fait référence à croire quelque chose au sujet de Dieu, à croire quelque chose au sujet des vérités que Dieu a communiquées, au sujet de comment est-ce que lui, il nous révèle que le monde est et que nous, nous sommes. Et quand on croit ces choses-là, c'est la foi. C'est le fait de croire ces choses-là, puis de vivre en fonction de ce qu'on croit. Il semblerait, premièrement, selon la réponse de Jésus, que ce qui est important, ce n'est pas tellement la quantité de foi. Là, on utilise des expressions, puis on retrouve même ces expressions dans la Bible. On dit « Ah, ça, c'était quelqu'un de foi, c'est un homme de foi, c'est une femme de foi. » Puis là, on imagine que ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de foi, une grande foi. Et on voit dans la Bible arriver à un moment donné où Jésus dit à quelqu'un « Si tu crois, alors... » Il y a des choses qui peuvent arriver, un petit peu comme il dit aux disciples, si tu croyais, il n'y a rien qui serait impossible. Et là, cette personne-là réalise qu'elle voudrait plus de foi ou qu'elle voudrait que cette foi-là porte plus de fruits. Puis elle dit ceci en réponse, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Fait qu'il y a cette tension qui existe entre, oui, d'un côté, je crois, mais de l'autre, je réalise que ça ne suffit pas. Je réalise que ce que je crois ou la manière que j'y crois, c'est comme, ça ne va pas suffire, ça ne va pas être assez. Puis là, la personne demande à Jésus, viens au secours du fait que je ne crois pas suffisamment. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon expérience, ça m'est arrivé souvent de dire à Dieu, je réalise que jusqu'à un certain point, je ne crois pas, ou je ne crois pas assez, ou je crois, mais mes doutes viennent prendre le dessus, ou je crois, mais mes inquiétudes viennent prendre le dessus, puis j'ai besoin que tu m'aides avec le fait que je ne crois pas assez, je ne crois pas bien, je vis avec cette incrédulité, puis je veux que Dieu vienne intervenir là-dedans. Un autre passage, et le but de tout ça, c'est de challenger un petit peu notre manière de voir ça. Peut-être vous vous dites, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de foi, ou peut-être vous vous dites, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de foi, puis je ne sais pas vraiment c'est quoi la solution à cette réalité que je n'ai pas beaucoup de foi. Quand il arrive quelque chose, je suis vite inquiet. Quand il arrive quelque chose, mes croyances sont ébranlées. Comment est-ce que je fais par rapport à ça? Qu'est-ce que je fais pour avancer puis progresser quand je manque de foi? Un autre passage dans Romains qui dit ceci. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Et c'est une question rhétorique, autrement dit, c'est pour dire que le fait qu'on manque de foi ou le fait qu'on soit incrédule, c'est pas ça qui va faire en sorte que Dieu sera moins fidèle. C'est pas parce qu'on manque de foi ou qu'on manque de croire que Dieu est comme « Ah, je suis coincé, je peux plus rien faire ». Non, absolument pas. La fidélité de Dieu va au-delà de notre confiance ou notre incrédulité. Si ce matin, vous vous dites, je sais que croire en Dieu, que croire en ce que Dieu dit, ce que Dieu révèle, ce qu'il nous apprend au sujet de lui-même, du monde et de nous, avoir la foi, c'est un élément très important. C'est un élément très important pour grandir, pour cheminer, pour avancer. Mais honnêtement, aujourd'hui, je crois que je manque de foi. Je crois que je manque de foi, puis je voudrais savoir quoi faire avec ce constat-là. Si c'est ce que vous vous dites ce matin, eh ben, bonne nouvelle, c'est de ça qu'on parle, puis on veut avancer ensemble. C'est certainement mon cas aussi. Je ne suis pas du tout dans une place où je me dis j'ai toute la foi que j'ai besoin, toute la foi nécessaire. Il n'y a rien qui pourrait venir ébranler ce que je crois. Il n'y a rien qui pourrait venir ébranler ce que je crois au sujet de Dieu. Absolument pas. Mais Dieu vient parler à ce sujet-là. Jésus vient parler à ce sujet-là. Puis on veut grandir dans notre confiance au sujet de Dieu, envers Dieu. C'est intéressant, avant d'aller plus loin, c'est intéressant à quel point Jésus souvent a nommé les enfants comme exemple pour toutes sortes de choses. Puis une des facettes qui est fascinante à propos des enfants, c'est qu'ils ont une confiance incroyable dans leurs parents. Ça part vite, là, autour de l'adolescence. Mais au départ, les enfants ont appris une chose, c'est qu'ils peuvent faire confiance à leurs parents. Puis la confiance qu'ils communiquent, qu'ils démontrent envers les parents, parfois même moi, ça m'épate vraiment beaucoup. Vous savez, le jeu où quand on prend les enfants, on les lance dans les airs, là. Moi, quand j'étais jeune, j'haïssais ça. Mais on peut faire ça, j'ai fait ça avec tous mes enfants. On prend les enfants, puis on les lance en l'air, puis la maman, elle aime pas ça, là. Mais l'enfant, lui, là, il tripe, il capote, puis jamais il se dit comme, « Hey, d'un coup, que ça, il tente plus de me rattraper. » Non, lui, comme, il fly, puis il rit, puis il s'amuse, puis il n'y a pas de pensée à un moment donné comme, « Est-ce que j'ai raison de faire confiance ?» à mon parent pour ce jeu-là. Il me semble que ce n'est pas très responsable, tout ça. Là. Ça, c'est la maman qui dit ça. Mais le jeune, lui, là, il est heureux là-dedans. Là. Il est heureux parce qu'il a confiance dans son parent. Et Jésus, à plusieurs reprises, prend les enfants comme exemple. Il dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et cette foi qui est jusqu'à un certain point illimitée, naïve, qui est belle, on a des leçons à apprendre, on a des choses à apprendre par rapport à ça. Puis Jésus, juste après avoir répondu aux disciples en disant « À cause de l'incrédulité, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez faire. Si vous aviez un peu de foi, vous pourriez faire l'impossible. » Et puis là, Jésus ne les laisse pas en suspens avec cette déclaration. Parce qu'imaginez un petit peu, là, ils reviennent, ils ont un échec à raconter à Jésus. Puis la réponse de Jésus, c'est « Si vous en aviez juste un tout petit peu, vous pourriez déplacer des montagnes, rien ne serait impossible. » La prolonge que les disciples ont fait comme okay, ça c'est pas une bonne nouvelle, c'est vraiment accablant si ça s'arrête là. T'sais. Jésus s'arrête pas là et au verset suivant il dit ceci. Cependant, parce que dans le cas de cette histoire comme j'ai raconté, les disciples devaient chasser un démon puis ils ont pas réussi. Et Jésus dit cependant cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça ne sort que par la prière et par le jeûne. Quelqu'un m'a dit un jour, si tu veux faire que les gens se sentent coupables, parle de la prière. Le but ce matin, c'est pas qu'on se sente coupable, mais qu'on puisse apprendre, qu'on puisse découvrir un peu plus le rôle de la prière dans le contexte de la foi. Quel rôle, quel lien il peut y avoir entre la prière et la foi? Et est-ce que, et c'est la thématique de ce matin finalement, est-ce que la prière peut contribuer à faire grandir notre foi? C'est de ça qu'on va parler ce matin. Il y a un des livres, un des auteurs finalement qui a parlé de la prière qui a eu le plus d'impact à l'époque moderne, c'est Andrew Murray. Puis Andrew Murray dit ceci: dans le monde spirituel, l'échec n'a qu'une cause, le manque de foi. Et il dit pas ça dans un contexte vide, il a écrit un livre qui s'appelle « Avec Christ à l'école de la prière », qui est un des livres les plus influents sur le sujet. Et sa réponse à lui aussi, dans la même sorte que Jésus a pointé dans cette direction-là, le manque de foi doit être répondu par la prière, entre autres, en tout cas. Pas d'une manière finale et absolue, mais entre autres, par la prière. Maintenant, la prière, je sais que c'est un sujet qui est touché. Un, parce que quand on parle de prier, la plupart d'entre nous, j'ai pas rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont dit « Moi, je suis convaincu que je prie assez. Je prie vraiment beaucoup, je prie souvent, je prie assez, puis j'ai pas l'impression de manquer de passer du temps dans la prière. » La plupart des gens avec qui j'ai parlé, puis mon expérience à moi aussi, c'est de dire ouais, « je devrais prier plus. Je devrais prier plus. Il me semble que je pourrais prier plus. J'aimerais ça prier plus. » Tu sais. Puis si c'est ton cas ce matin, je veux pas que tu sois découragé en disant « Ok, je manque deux fois, puis je prie pas assez, puis je suis faite. C'est où la sortie, tu sais? » Pas du tout. C'est quelque chose dans lequel on peut vraiment grandir puis apprendre. Mais on a un rapport un peu doux-amer avec la prière, parce que la prière devient vite quelque chose de mécanique, quelque chose de religieux. On le fait parce qu'on sait qu'on doit le faire, mais on n'éprouve pas beaucoup de plaisir, puis deux, on n'est pas convaincu que c'est si utile que ça. C'est plus comme on a besoin de cocher cette case-là pour pouvoir avancer. Quelqu'un qui a dit souvent la prière dans les rencontres d'église, c'est une prière fermeture éclair. Tu l'ouvres pour commencer la réunion, puis tu le fermes pour terminer la réunion, puis c'est comme ça qu'on sait que la réunion commence et termine. T'sais. Il y a une prière au début, une prière à la fin. Ou bien, si vous avez grandi dans un environnement qui, dans les églises, etc., probablement qu'une des manières les plus régulières et incontournables de la prière, c'est avant de manger. Et là, on se couvre avant de manger, puis moi, j'ai grandi avec toujours la même prière. C'est exactement toujours les mêmes mots, tu sais. Et puis ça devenait vraiment juste un geste mécanique qu'on faisait, parce qu'avant ça, t'as pas le droit de manger. Quand t'es jeune, c'est ça que ça veut dire, là. T'es devant ton assiette, tu veux manger, mais il faut attendre la prière. Une fois que t'as prié, t'as le droit de manger. C'est comme si, avant, c'est comme un peu poison, tu sais. C'est pas safe. T'es pas sûr que t'as le droit, puis que Dieu va pas te punir immédiatement, tu sais. Ça va faire mal au ventre, puis tout. La prière, c'est... La prière, c'est comme quelque chose qu'on sait que c'est bien, jusqu'à un certain point, mais c'est pas aussi automatique le fait de l'expérimenter, puis de réaliser, oui, c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment bien, c'est vraiment bon, c'est vraiment utile, ça contribue réellement à mon expérience de Dieu, à mon expérience de ma vie spirituelle. Puis si vous avez déjà été comme un peu brûlé par comment vous avez expérimenté la prière, comment les autres autour de vous vous ont fait expérimenter la prière, je veux juste vous encourager à laisser la porte ouverte, à grandir, puis à découvrir, puis à avancer dans ce domaine-là, parce que c'est vraiment un élément central de ce que ça veut dire de vivre dans un monde dans lequel Dieu existe. À quoi ça ressemblerait si on vivait dans un monde dans lequel Dieu existe mais qu'on ne peut pas lui parler? Quel bienfait est-ce qu'on pourrait vraiment en retirer? Quel avantage est-ce qu'on aurait que Dieu existe, qu'il est là, présent réellement, mais qu'on n'est pas capable de lui parler? Et une des choses qu'on voit dans toutes les religions du monde, il existe toujours un mécanisme ou une manière par lequel l'homme cherche à entrer en contact avec le divin. La plupart des religions ont une forme ou une autre de prière, une manière de communiquer, de parler avec le divin. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on voit dans la Bible que Dieu veut qu'on lui parle. Dieu veut qu'on s'adresse à lui, qu'on rentre en communication avec lui. C'est une des manières qui se présente. Il y a ce passage dans le psaume qui dit, c'est le psalmiste, l'auteur du chapitre, qui dit à Dieu, « Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » C'est quasiment comme un titre. Dieu est celui qui écoute les prières. Il n'est pas distant ou désintéressé, ou il faut attendre une certaine plage horaire pour être capable de s'approcher. Dieu est celui qui écoute les prières. Et c'est déjà un premier endroit où notre foi peut être challengée. Notre foi peut être un petit peu challengée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, moi je prie, mais je ne sais pas si Dieu m'écoute. Je ne sais pas si Dieu écoute mes prières. Que ce soit parce que c'est votre ressenti ou que ce soit parce que vous n'avez pas l'impression que Dieu a écouté et répondu, ça peut faire partie des choses qu'on finit par croire. Et la prière vient, à la lumière de ce verset, la prière vient dans un contexte où Dieu écoute les prières. Dieu est présent. Si Dieu est présent, alors on ne veut pas agir comme s'il n'était pas présent. On ne veut pas vivre notre vie chrétienne en disant « je vais prier quand j'ai besoin », mais en réalité, ça ne correspond pas à ce que je veux ou à ce que je ressens. Mais si Dieu est vraiment présent et qu'il nous invite à lui parler, alors on ne veut pas manquer cette occasion. Il y a un des passages dans la Bible que vous avez probablement déjà entendu où les disciples demandent à Jésus « enseigne-nous à prier ». Peut-être que tu te dis ce matin, il me semble que je ne suis pas un expert, j'entends des gens prier puis ils prient beaucoup mieux que moi. Ça, c'est vraiment ça ne reflète pas la réalité de ce qu'est la prière. Même si vous êtes rendu à un point où vous vous dites, c'est ça que je crois, que les autres prient mieux que moi puis moi je ne prie pas bien, ce n'est pas la révélation de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu dit qui vous fait penser ça. Encore une fois, bien souvent les enfants sont un bon exemple. Parce que les enfants n'ont pas nécessairement encore appris toutes les formulations, puis toutes les manières de dire les choses avec des grands mots ronflants, puis tout ça. Ils expriment les choses simples, telles qu'elles sont vraies. Des fois, ils ont besoin d'être un petit peu encadrés sur la manière de parler, mais il y a une authenticité qui vient de leur manière de s'exprimer. C'est moins caché, c'est moins... on est en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou de sonner particulièrement bien. C'est simple et vrai. Et c'est de cette manière-là que Dieu veut qu'on s'exprime à lui. Il y a une des choses que j'aime le plus, vraiment, là, dans la vie, et principalement dans la vie de l'Église, c'est d'entendre quelqu'un qui n'a pas grandi dans l'Église, qui vient de rencontrer Dieu, commencer à prier. Il n'y a pas grand-chose de plus fascinant que ça. Parce que c'est vrai et c'est pas teinté juste par copier ce que les autres font puis reproduire les formulations, travailler puis planifier pour que ça sonne d'une certaine manière. Puis il y a vraiment une honnêteté qui dégage de ça. Je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'étais avec quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une église, puis là, il vient juste de rencontrer Dieu, il vient juste de comprendre qui est Jésus puis ce qu'il a fait pour lui. Puis là, il prie pour la première fois, puis il dit « Dieu, c'est moi ». Puis il commence à prier, puis c'était vraiment magnifique parce qu'il n'y a pas de tout un tas de vernis qui est posé par-dessus. C'est simplement parler à Dieu. C'est aussi simple que ça, juste parler à Dieu. Pas parler à Dieu avec des manières qui vont l'impressionner. Juste dire à Dieu ce qu'on veut lui dire. On peut apprendre à prier. C'est ça le point qui est important ce matin. On peut apprendre à prier. Et pas dans le but d'apprendre à prier avec des formules impressionnantes, mais on peut apprendre à vraiment communiquer avec Dieu, puis grandir dans cette communication avec lui. La meilleure manière d'apprendre à prier, si ce matin tu dis hey, vraiment j'aimerais apprendre à prier, j'aimerais grandir dans ce domaine-là, la meilleure manière de faire ça, c'est de prier. Tout simplement, c'est de prier. On peut lire des livres, on peut écouter des conférences, on peut entendre quelqu'un nous en parler comme un matin, mais la meilleure manière de grandir, c'est simplement de prier, simplement de s'y mettre. La Bible nous amène beaucoup à lire, à méditer sur certains passages de la Bible pour influencer puis orienter nos prières aussi. Prier avec d'autres, pas dans le but d'évaluer si mes prières sont aussi élaborées que celles des autres, mais simplement parce que c'est une manière de s'encourager, puis de prier aussi, pas seulement dans la réalité de Dieu puis moi, mais dans la réalité qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans ce monde, dans cet univers. Puis quand on prie, et quand on, on met en action, dans un sens, notre confiance envers Dieu et qu'on le voit répondre et réagir, alors ça fait grandir notre foi que Dieu écoute, que Dieu est là, qu'il a un plan, qu'il est souverain, qu'il aime ses enfants, qu'il se préoccupe de ce qu'on vit, de où on est, etc. Et ça, c'est là probablement la manière la plus tangible où la prière va faire grandir notre foi. Il y a un événement qui est arrivé, puis j'en parle pas. Je parle d'un événement qui est plus loin dans mon passé, pas parce que c'est pas arrivé depuis, mais parce que ça a été pour moi, dans ma vie à moi, ça a été comme une borne sur le bord du chemin, comme un témoignage dans ma vie que Dieu répond aux prières. Puis je vais faire ça court, mais à un moment donné, on était en voyage, j'ai grandi en France, puis on est allé en Angleterre avec un voyage avec les jeunes de l'église. Puis juste avant de revenir, on prenait le bateau pour traverser, puis juste avant de revenir, on avait laissé la van, on était allé à la pizzeria, puis en revenant, on s'était fait cambrioler. Puis à l'époque, il fallait un passeport pour voyager en Europe. Tous nos bagages, toutes nos affaires, tout a été volé. Puis là, on est comme dans le mauvais pays, de l'autre bord de la mer, puis on ne sait pas quoi faire. Puis on a dit, on va prier. Bon, on ne sait pas quoi faire d'autre de toute façon. Je me rappelle que j'étais très fâché, puis que j'avais envie de fouiller le quartier pour demander gentiment aux voleurs. J'étais un adolescent, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Puis on s'est mis à prier, puis moi je suis un gars assez distrait facilement. Puis pendant qu'on priait, j'ai entendu du bruit, puis j'ai levé les yeux, puis j'ai vu des policiers qui arrivaient avec des valises. Puis ils nous ont ramené nos valises alors qu'on était en train, on venait juste de commencer à prier, puis les policiers ils nous ramenaient nos valises, qui avaient été volées dans la van, puis on a tout récupéré nos affaires. Puis il y a un verset qui dit, avant même que tu aies ouvert la bouche, Dieu sait de quoi tu as besoin. Puis cette situation-là, j'étais adolescent, ça fait quelques années maintenant, je m'en rappelle comme si c'était hier, parce que pour moi, ça a été une démonstration si tangible et si réelle que, oui, Dieu se préoccupe de nous, puis oui, la prière est là pour qu'on puisse faire savoir à Dieu ce qu'on vit, puis Dieu va être fidèle, pas nécessairement toujours de la manière qu'on s'y attend, mais Dieu va être fidèle. Puis ce jour-là reste gravé dans ma mémoire parce que c'est le jour où j'ai appris d'une manière concrète que Dieu écoute, que Dieu répond, et que la prière est une manière qu'on peut vraiment parler à Dieu. J'aimerais terminer avec trois questions que je veux qu'on se pose ensemble pour pouvoir avancer et cheminer. C'est bien qu'on ait ce temps ce matin où on peut aborder cette question de la prière et de la foi et de grandir dans la foi et d'utiliser la prière aussi pour pouvoir grandir dans la foi. Mais d'une manière très concrète, j'aimerais qu'on se pose ensemble trois questions. La première, c'est Dieu s'attend à ce qu'on prie. C'est pas un mystère dans la Bible. À maintes reprises, Dieu nous invite à prier. Dieu nous invite à lui parler, à lui dire ce qu'on a besoin de lui dire. Puis je parle ce matin davantage de la prière comme parler puis demander à Dieu, mais c'est pas la seule facette évidemment. Mais Dieu nous invite à prier. Dieu s'attend à ce qu'on prie. Et face à ça, est-ce que tu vas vouloir prier? Est-ce que tu veux prier puisque Dieu t'y invite? Dieu te dit, viens me parler. Rentre en communication avec moi. Vis en fonction de cette réalité que j'existe, que je suis là, que je veux être un père pour toi, que je veux prendre soin, que je veux être présent et agir dans ta vie. Veux-tu prier? Puis quand je dis prier, je ne parle pas d'un rythme religieux ou peut-être dans ta routine, tu pries avant de manger, puis tu pries avant de te coucher, puis peu importe quelle structure on a mis dans notre vie où il y a des points fixes, pas que ça n'ait pas de valeur, mais c'est pas ça l'essence même de la prière où on a simplement des routines mises en place. Mais veux-tu prier à Dieu? Veux-tu parler à Dieu pour les choses qui sont importantes, pour les choses qui sont vraies dans ta vie? Les choses qui sont belles, les choses qui sont laides, les choses qui sont dures, les choses qui sont dignes d'être célébrées, puis celles qui te gardent éveillé la nuit. Veux-tu en parler à Dieu? Parce que Dieu t'invite à le faire. La deuxième question, c'est la prière, c'est pas quelque chose avec lequel on est ou on n'est pas. Il n'y a pas des gens qui sont doués naturellement, puis d'autres qui ne seront jamais bons. On peut apprendre à prier, on peut grandir dans notre expérience de la prière. Veux-tu continuer à apprendre à prier? La troisième, c'est que Dieu entend les prières, comme on l'a vu dans le passage tout à l'heure. Dieu entend les prières. Il ne répond pas toujours comme on le voudrait ou quand on le voudrait, Puis une chose que Dieu nous promet, c'est que lui est souverain, que lui a une vision plus large que nous. Il a une compréhension plus large que nous. Et même si on a une idée très précise de ce qu'on voudrait que Dieu fasse, une manière de mettre notre foi en pratique, c'est de dire, comme Jésus, juste avant d'être mis à mort, de dire, ta volonté, pas la mienne. Moi, j'ai un plan précis de ce que je veux qui arrive, mais je veux reconnaître que toi, tu sais plus de choses que moi, que toi, tu peux faire plus de choses que moi. Puis je te demande, avec insistance, avec confiance, avec espoir, mais en bout de ligne, je veux que toi, tu répondes selon ce qui est bien, et pas selon seulement de ma vision de ce qui est bien. Alors, si Dieu écoute les prières, vas-tu persévérer dans la prière? Et la Bible nous invite à persévérer. La Bible nous invite à aller vers Dieu pour ce qui est important, pour ce qui nous pèse, pour ce qui est vrai dans notre vie, en faisant confiance que Dieu entend et que Dieu répond, et qu'on peut grandir là-dedans et qu'on peut y goûter davantage. Et la prière, dans la conversation de ce matin et au sens large aussi, la prière n'est pas une fin en soi. Dans le sens que c'est pas seulement pour pouvoir dire « moi je parle avec Dieu », d'avoir cette conversation qui existe, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de connaître Dieu. La fin en soi, c'est d'être proche de qui Dieu est et pas seulement de ma vision de qui il est. Et que par la prière, on puisse grandir dans notre foi, dans notre confiance à Dieu. De sorte que quand des choses arrivent dans notre vie, quand des épreuves arrivent, quand des imprévus arrivent, on puisse dire, et que ce soit vrai, je ne sais pas ce qui s'en vient, mais je sais que Dieu prend soin de moi. Et de vivre en fonction de cette vérité-là. Si on s'arrête et qu'on prend un pas de recul, on cherche tous dans notre vie, et je parle des gens qui cherchent Dieu et des gens qui ne cherchent pas Dieu, on cherche tous dans notre vie quelque chose qui va être assez grand, assez fort, assez ferme et solide, qu'on va pouvoir s'appuyer dessus toute notre vie, peu importe ce qui arrive. Et ça peut être toutes sortes de choses. Mais Dieu est ce point de repère fort et solide qui peut faire en sorte que peu importe ce que la vie nous réserve, je ne parle pas de la vie comme une entité voulante, là, mais peu importe ce qui va arriver dans notre vie, peu importe ce qui va arriver aujourd'hui ou demain, ou avec nos plans, avec nos projets, avec nos rêves, avec ce qu'on prévoit, par la foi, et la prière vient jouer un rôle là-dedans, mais par la foi, on peut être gardé solidement. On peut être pas balayé et pas être vacillant dès que le vent se lève, mais être gardé et de dire, et que c'est vrai, je sais que Dieu va me garder. Je sais que Dieu est mon garant. Il est celui qui me garde, qui me protège. Il est mon refuge. Tout le langage qu'on découvre de Dieu dans les psaumes où Dieu est présenté de cette manière-là. Dieu est ma forte retraite. Dieu est mon refuge, ma forteresse, mon abri, mon bouclier. Toutes ces choses-là, c'est des expressions qui sont vides tant qu'on n'a pas goûté à la réalité de ce Dieu-là. Et le but d'apprendre ensemble à prier davantage, c'est pour qu'ensemble on apprenne aussi à faire confiance à Dieu davantage. Maintenant, faire confiance à Dieu, ça implique qu'on va être sorti de notre zone de confort, qu'on va être appelé à faire un pas dans une direction où on ne sait pas comment ça va se passer, exactement de quelle manière ça va nous mener, mais qu'on est capable de faire ce pas-là parce qu'on a confiance que Dieu va continuer à nous accompagner. Et dans la vie chrétienne, et dans l'Église, et les uns avec les autres, on est continuellement appelé à faire des pas qui nécessitent de faire confiance à Dieu. Parce qu'on ne fonctionne pas dans un système où on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On fonctionne dans un système où on fait avec un Dieu qui, lui, fait ce qui est impossible. Et Dieu va faire bien plus que ce que nous, on peut faire. Dieu va faire avec notre petite minuscule semence de confiance des choses extraordinaires. Et Jésus utilise cette image parce que cette graine de moutarde va finir par donner un arbre qui a 20-25 pieds de haut et qui grandit et qui fleurit beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé avec la taille qu'il avait au départ. Et de la même manière, Dieu nous donne cette image pour qu'on comprenne, avec un tout petit peu de confiance en Dieu, avec un tout petit peu de compréhension puis de confiance dans qui Dieu est. Dieu, lui, va faire des choses beaucoup plus grandes que ce que nous, on peut faire par nous-mêmes. Et Dieu va t'appeler d'une manière certaine, Dieu va t'appeler à faire des pas de foi, des pas qui vont demander la confiance que Dieu va être là et Dieu va prendre soin. La question maintenant, c'est est-ce que tu vas entendre quand Dieu te demande, puis est-ce que tu vas aller de l'avant avec foi et avec confiance? Et pour terminer, je voudrais illustrer ça avec ce qui s'est passé depuis les derniers mois où on a invité des gens, on a appelé des gens à faire un pas de foi, à aller de l'avant dans un projet qui était exigeant, qui était en grande partie, surtout de leur part, inconnu, où ça allait mener. Puis il reste encore une grande partie d'inconnu pour la suite des choses. Puis c'est les gens qui ont suivi la formation de co-leader pour s'impliquer comme leader puis comme co-leader dans les groupes connexion. Il y a quelques mois passés, on a invité un certain nombre de gens à s'impliquer dans une formation qui était exigeante en termes de temps, en termes d'efforts, en plus de la routine normale du travail ou des études ou de la famille ou peu importe. Et ces gens-là ont choisi de répondre oui et de dire on est là, on veut être présent. Pas parce que tout est figuré, pas parce que tout est clair et transparent, mais parce qu'on croit que Dieu nous appelle puis qu'on croit que Dieu va suffire et que Dieu va répondre, Dieu va pourvoir à tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est besoin. Fait que ce matin, ce qu'on veut faire, parce que la formation est terminée, j'aimerais juste qu'on puisse accueillir ceux qui ont pris cette formation, puis souligner leur investissement, puis que ça puisse être un encouragement pour l'Église. J'aimerais inviter à venir avec moi ici Mylène et David Valente, Colin, Nico, Marianne et les fameux deux Michel. Si vous voulez venir avec moi en avant, on va juste prendre un temps pour souligner votre engagement, votre obéissance, puis aussi prier pour vous autres. Fait que si vous voulez les accueillir avec moi. En sachant que la plupart, ils n'aiment pas ça être sur le stage. Fait que merci de vous plier et de jouer le jeu. Attends, Marianne. Fait que ce matin, on veut simplement, vous pouvez venir ici, à moins que Michel, tu veux le faire du clavier. Ou... je vais les torturer un petit peu plus. D'abord, au nom de Axe, on veut vous remercier puis honorer le fait que vous avez répondu présent à cette formation qui va vous emmener... On ne sait pas encore vraiment où, mais on sait que Dieu va pourvoir, on sait que Dieu va être là. Puis que Dieu va utiliser aussi le peu, le petit pas que vous avez fait, que vous avez semé en sachant que Dieu va honorer ça, que Dieu va utiliser cette petite semence, puis que lui va faire grandir des grandes choses à partir de ça. Alors je veux juste simplement honorer votre engagement pendant plusieurs semaines, tous les lundis soirs, ils se sont présentés pour suivre cette formation. Merci pour votre persévérance. Merci pour votre engagement, qui est un exemple pour moi puis pour l'Église. Et puis j'aimerais juste prendre un instant pour prier, puis vous remettre entre les mains de Dieu qui a des projets pour l'avenir. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour ces personnes qui ont choisi de répondre avec une mesure de foi, avec une mesure de confiance, malgré les doutes, malgré les contraintes, malgré les sacrifices que ça a demandé. Merci de les avoir emmenés à travers ce processus, puis on veut prier que dès maintenant, puis dans l'avenir, dans les plans que tu as préparés d'avance, tu puisses les accompagner, que tu les remplisses de ton esprit, que tu les utilises avec les dons que tu leur as donnés, avec les capacités que tu leur as données, et aussi que tu les utilises au-delà de ça, au-delà de ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, au-delà de ce qu'ils sont capables de faire par eux-mêmes, par leur propre talent. Seigneur, on prie que tu les utilises et que tu fasses grandir ce projet, ce ministère où on veut prendre soin des gens dans les groupes connexion, on veut être des bergers les uns pour les autres, on veut prendre soin, accompagner, faire des disciples, parce que c'est ça la mission de l'Église. Fait que je te prie ce matin de bénir ces personnes, de les accompagner, de continuer à augmenter leur foi, de continuer à vivre en communication avec eux pour qu'ils puissent de plus en plus te faire confiance dans le rôle que tu leur confies. Merci parce que c'est ça notre espérance, puis merci parce que de cette manière-là, tu continues à faire grandir l'Église, que tu continues à faire grandir ton royaume, à Magog en particulier, puis on est vraiment honorés d'en faire partie. Merci de pourvoir au-delà de ce que nous, on peut faire, et Seigneur, on veut juste te dire merci pour ton plan qui est extraordinaire, au nom de Jésus, Amen.